up, you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Cette émission est préparée par Justine Dibding, Virginie Le Duo et Boris Pinault. Prise de son ce soir assurée par Catherine Déreté, réalisation signée Daniel Finot. Et ce soir, Corinne Rondeau et Harry Bellé se font face à notre affiche, une émission 100% helvète. Wolfgang Tillmans à la Fondation Beyeler à Bâle, Ola Prado de collection en dialogue au Kunstmuseum de Bâle. On évoquera aussi plus rapidement une autre exposition du Kunstmuseum, celle consacrée à Richard Serra. Et puis un petit tour à Paris, mais au Centre culturel suisse avec Sylvia Bechli et Eric Attan, situé La Différence. Vers 21h20, Xavier Martinet se conformera à cette règle et nous entraînera dans le petit salon pour parler de la foire de Bâle. Et puis il y aura des cadeaux, bon, qui ne sont pas faits, liés à un Suisse ou à un confédéré. On fera gagner des coffrets DVD Blu-ray de deux films de Lino Broca, Insiang et Manille, distribués par Carlotta. C'est donc à la Fondation Beyeler que nous nous rendons pour débuter cette émission avec une grande exposition monographique consacrée à Wolfgang Tillmans. On peut y voir près de 200 travaux photographiques de l'artiste allemand réalisés entre 1989 et 2017, ainsi qu'une nouvelle installation audiovisuelle. N'ayant pas eu l'occasion de faire le voyage à Bâle, enfin, pas encore, hein. Peut-être le ferai-je avant la fin de cette exposition, celle dont nous parlons ce soir dure quand même jusqu'au mois d'octobre quasiment, donc j'ai peut-être le temps. Enfin, en tout cas, je suis tout oui, alors que le soleil brille encore pour ce dernier jour le plus long de l'année, pour découvrir l'exposition Tillmans à travers... vos propos, vos yeux, vos souvenirs, vos impressions, vos commentaires, analyses, et c'est Corinne Rondeau que je vais suivre en premier dans cette fondation que j'aime beaucoup.
Oui, c'est difficile de ne pas l'aimer.
Allez savoir.
Eh oui,
il y a des gens
crois.
Qui disent « Oh, Beyeler !»
Ah oui, vraiment, bah, écoutez, entre les jardins et l'architecture, c'est quand même un plaisir chaque fois de voir les œuvres. Et peut-être pas des redécouvertes, puisque c'est le cas. En général, j'ai toujours une redécouverte. Et Tillmans m'avait laissé un très très bon souvenir au Palais Tokyo il y a plusieurs années, où j'avais découvert qu'effectivement le travail de la photo n'était pas un travail de photo. C'était en quoi le médium photographie pouvait devenir une image, comme une photocopie, comme un grand format, un petit format, du noir et blanc et de la couleur, des abstractions et du figuratif. Et j'avais été saisie vraiment par l'exposition au Palais de Tokyo, qui était... peut-être aussi importante en termes d'espace que ce qui est proposé à la Fondation Beyeler. Ici, finalement, j'ai pas été très étonnée puisque c'est un maître vraiment de l'accrochage. Et ça, c'est un grand plaisir parce que son œuvre se prête énormément à la question de l'accrochage. C'est-à-dire qu'il a un accrochage très fluide et en même temps très espacé. Il y a des accrochages qui sont pas forcément linéaires mais qui sont tout format et en même temps des grands espaces entre certaines œuvres et d'autres qui sont des petits puis des grands. Il y a des œuvres qui sont exposées très en hauteur puis d'autres petites plus bas. Donc on a une sorte de dispersion de ces images sur les murs de la, enfin, et comme il sait le faire d'ailleurs très bien. Et c'est d'ailleurs une des salles qui est au centre quasiment de l'exposition, qui s'appelle, c'est la salle de la mise en scène, je crois, quelque chose comme ça, en tout cas il me semble bien. Donc c'est mise en scène des œuvres, voilà. Et donc on voit bien qu'il y a cette idée de l'œuvre de Tielemans ne peut pas se penser indépendamment de la manière dont elle est présentée. Et évidemment, il ne faut jamais penser qu'il travaille par série, qu'il travaille par catégorie, ça l'indiffère absolument. C'est quelqu'un qui peut travailler sur de longues périodes, comme il peut travailler une soirée ou à un moment précis. C'est des images dont on peut voir des paysages, des plis de vêtements, qui sont des sous-vêtements, qui sont du quotidien, des natures mortes qui peuvent être une Doc Martens à côté d'une grenade ouverte. Ça peut être votre petit déjeuner. Alors évidemment, ça peut faire un peu selfie, vous savez, tous les gens qui vous envoient leur muesli le matin ou ces trucs-là. Bon, alors évidemment, il y a quelque chose du quotidien qui est très marqué chez Tielemans. Et en même temps, il y a de très belles œuvres très abstraites qui sont aussi une manière de faire de l'image sans l'appareil photographique, mais uniquement dans la chambre noire, en travaillant sur des opérations gestuelles uniquement avec la lumière sur du papier. Donc c'est là qu'on voit ces grandes formes qu'on connaît le plus, on pourrait dire, de ces abstractions qui sont c'est Osgood Freischheimer. Ou alors vous avez, moi c'est les photos, enfin les images que j'aime le plus, c'est une feuille de papier qui fait une courbe, qui se replie sur elle-même. C'est des paper drop. Et c'est tellement tiré avec précision, l'image, que vous avez l'impression que ça peut être une goutte d'eau, par exemple, ou quelque chose d'indistinct. Vous n'arrivez pas. Et en fait, c'est une feuille de papier, simplement. Donc, il y a à la fois une élégance de certains clichés, une banalité de certains clichés. Et l'exposition vous met, je dirais, au début de son œuvre. C'est vraiment une rétrospective. Hein.
Mm-hmm. Donc, 89, oui.
89 à aujourd'hui. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui avait déjà collaboré à la Fondation Baylor, mais avec des artistes modernes, Monet, Cézanne. Et donc, il a un goût pour la peinture qu'il photographie aussi. En fait, vous avez tout. Mm. Et c'est un homme aussi du marché, mais j'étais en plein milieu d'Art Basel, enfin de la foire de Bâle. Et j'avais l'impression de voir des gens qui regardaient du papier glacé, beaucoup. Et en fait, il faut pas négliger que Wolfgang Tielemans, il commence l'art avec l'épidémie du sida. Et que cette dimension de la fluidité ou de la manière de... Qu'est-ce que c'est qu'une image se pose vraiment de manière immédiate dans son travail, et on aurait plutôt tendance à l'oublier. Parce que cette manière qu'il a de photographier au tout début ses copains dans les fêtes, la techno, cette musique, moi je pensais au départ, quand j'avais vu ces images, je croyais que c'était un anglais. Parce qu'il me faisait penser à un post-punk ou un punk encore bien là. Et donc, peu importe, il y a aussi du underground dans ces années-là en Allemagne. Et c'est aux États-Unis qui découvrent la scène activiste américaine et justement la manière dont il faut aussi repenser la communauté homosexuelle à travers l'épidémie du sida, dont vous savez que les artistes et activistes ont pensé ça en termes d'épidémie de la représentation. Et cette fluidité, cette circulation de l'œuvre de Tielemans est inscrite dans cette histoire-là, qu'il faut pas oublier parce que c'est quelqu'un qui vend beaucoup. Et évidemment, ça peut s'assagir, mais aussi en même temps parce que c'est quelqu'un qui vieillit aussi. Hein. Donc il y a quelque chose de cette histoire qu'il faut pas oublier. Puis là, j'en parle aussi parce que Elisabeth Lebovici a sorti un livre en coédition Maison Rouge et J.R.P. Ringier qui s'appelle « Ce que le sida m'a fait » et qui aussi nous rappelle toute cette scène. Et j'avais parlé il n'y a pas longtemps non plus aussi du livre de Douglas Crimp, cet activiste et critique d'art américain dans Pictures, justement, la question de l'image, hein, aux éditions du Point du Jour. Donc il ne faut pas négliger cette idée de la dispersion de l'accrochage, mais aussi de cette fluidité très grande, ce retour au corps et aussi cette inscription historique très très forte, à mon avis, qu'on aurait tendance à oublier. Moi, je ne veux pas l'oublier parce que je pense que ça ne me donnerait pas une perception aussi sérieuse quand je vais voir du Tielemans.
Bon, voilà beaucoup d'éléments déjà. Harry Belay devant cette exposition, ou dans cette exposition, Wolfgang Tillmans, qu'est-ce que vous y avez vu, vous ?
Ah, la photographie, vous savez, c'est ma passion. Cela dit, j'ai été assez surpris. Il m'arrive de temps en temps de voir quelque chose, un film, une exposition, et d'en sortir en disant « c'est forcément génial, je n'y ai rien compris ». C'est un peu le cas de celle-là.
Qu'est-ce que vous n'avez pas compris ou que vous faites mine de ne pas avoir compris?
Ah non, après, quand on sort dans ces circonstances-là, on est obligé de réfléchir, de travailler un peu, quoi. Donc il est né en 68. Effectivement, il vieillit, mais enfin, ça en reste un gamin pour moi. Il n'a pas connu l'époque bénie où on avait la pilule et pas le sida, et effectivement, ça reste très... Moi, ça m'a fait un peu penser au travail de Nan Golding. Dans l'esprit, pas du tout dans la forme. Et la forme, elle est vraiment intéressante. C'est vrai que l'accrochage, il est totalement fou. Et en même temps, parfaitement harmonieux. C'est un garçon qui, quand il a un mur en face de lui, le remplit, et le remplit en faisant, mais presque comme un architecte. C'est-à-dire qu'un jeu des vides et des pleins, comme j'en ai assez peu vu, avec en plus une façon d'accrocher ses tirages photographiques que j'avais pas encore vu dans le cadre de la Fondation Bayard, dont c'est la première expo de photos en 20 ans quand même, j'en avais jamais fait avant. C'est-à-dire que les tirages photographiques sont accrochés avec deux épingles, deux pinces à linge en fait. Alors ça paraît comme ça anecdotique, mais en même temps il tient lui à cet aspect qu'il trouve beau de la feuille de papier photo qu'on peut tenir avec deux doigts. Et je me demande jusqu'à quel point le fait d'utiliser les pinces à linge, c'est pas un substitut des deux doigts. Montrer le côté, voilà, je la prends, je la trempe, je la sèche. Quelque chose qu'il fait lui-même. Il fait ses tirages lui-même et il les fait mal. Enfin, il les fait mal. Du point de vue d'un photographe professionnel. C'est-à-dire qu'il adore qu'il y ait des accidents. Il utilise des produits qui sont périmés, il nettoie pas ses cuves, ça fait des traces. Bref, c'est tout ce qu'il faut pas faire quand on est photographe. Et il le fait avec le même bonheur que les grands artistes autrefois découvraient les pierres de litho et faisaient tout ce qu'il faut pas faire sur une pierre de litho, par exemple. Donc il y a ce jeu-là qui me fait penser qu'il n'est pas seulement photographe. Voilà. Ne serait-ce que parce que il travaille pas toujours avec un appareil photo, il lui arrive de travailler juste en chambre noire. Hop, on allume la lumière quand il faut pas, et hop, ça met le souk dans le truc. Ou alors avec des photocopieuses. Je crois que les premiers boulots qu'il a fait, c'était avec des photocopieuses de celles qu'on a peut-être connues quand on est né avant 68, qui faisaient du bourrage, qui faisaient des traces d'encre qui étaient surchargées à certains endroits. Et tous ces accidents-là,
ça continue toujours. Ça va faire longtemps que vous n'êtes pas approché d'une photocopieuse à Rimes. Ça continue, le bourrage longtemps. Papier.
Je dois être probablement le dernier journaliste du monde à savoir qu'il faut aérer le papier avant de charger une photocopieuse. Bon, voilà.
Très bien.
Mais l'accrochage m'a vraiment impressionné. Les accidents de labo m'ont vraiment impressionné. Et puis, il y a le temps. Pas le temps du développement, pas le temps de l'exposition, mais le temps, Corinne y faisait allusion, le temps des séries. Certaines, comme chez Nan Golding, peuvent être très longues. Il va prendre des photographies de ses amis sur des très longues durées. C'est une chose qu'on connaît en peinture aussi. Lucian Freud faisait ça avec sa maman, notamment, mais pas seulement. Et puis il peut aussi, quand il fait les natures mortes, par exemple, il va utiliser des éléments qu'il va pas photographier tout de suite. Donc la nature morte commence à rancir un peu avant que d'être photographiée. Ou alors, effectivement, ces soirées qui ne sont pas new-yorkaises, en l'occurrence, celle que j'ai vue, c'est Chemistry, c'est une soirée londonienne, dans un club de techno, Ploum Ploum.
C'est la version Harry Belay de la techno.
Bah oui, je ne peux pas aller plus vite, hein, à mon âge. Et Ploum Ploum, donc, et ça, c'est fait, toute la série est faite en une seule soirée. Donc, on a un rapport au temps qui est vraiment intéressant, parce qu'il utilise toute la palette, quoi, de l'exposition.
Mais justement, elle est construite comment, cette exposition? Parce que vous écoutez... C'est à chaque salle une construction particulière ou est-ce que ça, les séries dont vous parlez, est-ce qu'elles sont rapprochées ou disséminées?
Ça dépend.
Oui. Et voilà, là aussi, il y a toutes les possibilités de l'exposition. On n'est pas dans l'accrochage thématique ou
si,
chronologique.
Il y a de ça, oui, bien sûr.
Nature morte, portrait.
Oui. Ouais. On a des salles thématiques. On commence notamment par des portraits dont on voit qu'il connaît à la fois Tilda Swinton, Kate Moss, Emma Herman, la grande comédienne de Fassbinder, mais aussi ses amis qui durent et qui sont à ses côtés, donc des anonymes. Un amant, donc on a ça, mais on a des salles thématiques. On a une salle où il y a un peu plus de nudité, on va dire, mais il n'y a pas que de la nudité dans la salle de la nudité. Et en fait, à la fin de l'exposition, vous avez dans la tête toutes ces images qui se mélangent. Vous ne gardez pas, je dirais, en tête une salle. Vous gardez plutôt en tête des formes qui vous ont marqué. Par exemple, les Paper Drop dont j'ai parlé m'ont marqué, mais elles sont pas côte à côte comme une série. Elles sont éparses dans la salle, par exemple. Ou les abstractions, vous en avez dans plusieurs salles. Vous pouvez avoir une abstraction à côté d'une photographie petit format, une grande abstraction, à côté d'une petite photo qui est l'aile de réacteur d'un avion en plein ciel. Donc vous avez tout le temps l'abstraction, la figuration, le noir et blanc, le papier scotché, petit format, jusqu'à la photographie 12-8, je sais plus comment c'est, quand vous faites une vraie photo, vous savez, vous la tirez sur l'imprimante, vous avez ce truc-là. Donc vous avez le scotch, les pinces à linge, vous avez l'encadrement, tout y passe, puisqu'on est dans l'image. Donc l'image, elle véhicule un certain temps et une certaine manière d'être montrée. Donc on vous montre des images à l'intérieur desquelles certaines images ont d'autres valeurs par rapport à d'autres. Et tout ça, c'est une exposition Tielemans qui est aussi, dans la rétrospective, là, j'ai un peu envie de dire, c'est un peu la vie de Tielemans. Parce que moi, j'ai toujours eu du mal, si vous voulez, j'apprécie énormément la qualité d'accrochage. En même temps, je voudrais pas en voir tous les jours. Hein, parce que, bon... Mais je trouve qu'il a beaucoup de douceur. C'est quelqu'un qui... ne choque jamais, parce que par exemple quand vous avez deux mains dont l'une a une perfusion, vous imaginez que ça se passe pas bien. Enfin, c'est ce que vous pouvez imaginer, mais rien ne vous le dit. Quand on a des portraits très serrés des années 90, dans les boîtes en noir et blanc, sueur, fatigue, mais sans doute sexualité qu'on va retrouver dans une autre salle, c'est inclus dans la boîte de nuit et dans cette époque-là. Donc en fait, vous avez des impressions, il y a plein de hors-champs en vous qui se mettent à se fabriquer, la vie d'un Tielemans, dont on peut supposer que ce regard qu'il porte, soit sur ses amis en un temps donné, soit sur le Concorde qui décolle, qui devient un point, soit des natures mortes ou des magnifiques photographies de florales, il y a une mélancolie folle et en même temps il y a une très grande introspection. Tout ce qui vous donne à voir est de l'introspection. C'est la raison pour laquelle moi j'ai à la fois, je dirais, une attention pour cet artiste concernant cette fluidité et cette dimension de contamination de l'image par l'image elle-même dans le temps à travers ce qui l'opère comme geste et comme fabrication de l'image, photocopie, tirage, pliure de papier, des plieurs de papier colorés qui sont magnifiques, voilà. Mais par ailleurs, ces sujets qui sont d'une extrême mélancolie par ailleurs me renvoie tellement à sa propre manière de regarder le monde que j'ai toujours l'impression que c'est une photographie d'amateur, et c'est vrai en partie, mais dont je suis vite lassée. Voilà. Donc je suis entre le sujet qui ne m'intéresse pas et l'intérêt pour ce mélange, cette contamination de la représentation, justement, qui à mon avis est aussi un point de vue politique, dans lequel il s'engage lui-même. On a un film à la fin, enfin il y a deux films à la fin, dans des dernières salles en sous-sol, et en fait il travaille beaucoup de musiciens techno, et on a des fleurs sur une musique techno, et puis une montage rapide avec des policiers, et on voit des matraques, donc il y a un côté à la fois cuir, mais en fait c'est aussi pas du tout cuir, c'est la police, c'est la vie d'aujourd'hui à côté, et toute la vie d'aujourd'hui est aussi un rapport entre une vie là et une vie contre laquelle il faut se battre aussi. Enfin, je crois que c'est quelqu'un qui est autant engagé qu'il est capable de voir avec beaucoup d'humilité des sujets simples.
Un petit mot encore à révéler sur Wolfgang Tillmans.
C'est sévèrement composé. C'est vraiment composé. Non, mais vraiment. C'est les compositions de ces photos, c'est un peu à l'image de l'accrochage, justement. C'est parfait. Il y a rien là où ça doit pas être. Il y a une photo en particulier qui m'a beaucoup impressionné, qui a dû être prise dans une chambre d'hôtel au Japon, avec deux pêches dans un petit panier. Mais enfin, c'est plus des pêches, c'est autre chose, vu la manière dont elles sont disposées. C'est vraiment bon. Il sait faire les images. Ouais. Maintenant, je suis trop vieux. C'est vrai que ce monsieur a eu une exposition rétrospective à la tête il y a fort peu de temps, qu'il a aujourd'hui celle de la Fondation Meyerler et qu'à la foire de Bâle, en même temps que l'exposition de la Fondation Meyerler, il a fait un carton extraordinaire. Bien.
Et il y en aura une en France. Images.
Ça vous semble un peu beaucoup.
Ce sont des images.
Il y en aura une en France, sans doute, dans quelques mois.
Bon, bah écoutez, bah comme ça, il pourra célébrer, donc, si je sais à peu près compter, son 50e anniversaire en beauté, si c'est pour l'an prochain. Wolfgang Tillmans, en tout cas, c'est à la Fondation Beyeler à Bâle jusqu'au 1er octobre. Je cherche, c'est la Fondation toujours qui édite ses propres catalogues, hein, oui. Il n'y a pas de coédition, donc je ne voulais pas dire une bêtise, je n'arrivais plus à retrouver l'information, donc grand catalogue également paru pour cette exposition.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
À suivre dans La Dispute, Le Prado, le Kunstmuseum de Bâle, Richard Serra, Sylvia Bechli, Eric Hattan. Avant cela, dans cette longue liste, un autre nom, celui de Xavier Martinet qui nous attend dans le petit salon. Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Et ce soir, donc, on reste à Bâle, même pour le petit salon.
Oui, puisqu'on va à la foire de Bâle avec ses 291 galeries, 4000 artistes, 100 000 visiteurs, le gratin des riches collectionneurs du monde, 116 jets privés, 18 de plus que l'année dernière. Tout est plus important qu'ailleurs à Bâle. Pour Culture Box, c'est le rendez-vous de toutes les démesures, c'est la folie des grandeurs, écrit le Journal des Arts. Mais une folie bien organisée depuis 47 éditions, c'est la 48e. Il y a 5 espaces, dont le célèbre Unlimited pour les pièces monumentales, mais aussi celui des galeries qui présentent dès les premières heures leur premier choix, ou celui des jeunes galeries appelées listes. Cette 48e édition aussi, il faut le noter, intervient 10 ans après la crise financière qui avait fortement affecté le marché de l'art. Du côté des galeries premium, il se remet d'ailleurs de manière spectaculaire, puisque les ventes décollent vite et fort, avec des œuvres entre 3 et 5 millions d'euros vendues en quelques heures. Apparemment, les collectionneurs américains et chinois sont venus, ou plutôt revenus. Dans la plupart des pays, les œuvres d'art défiscalisées d'ailleurs offrent des placements sûrs, tout le jeu étant de savoir où faire se reproduire son argent. En tout cas, l'ambiance est très solide ici. Il y a de grands collectionneurs, de grandes œuvres d'art, une véritable énergie, notait le directeur de la foire Marc Spiegeler. Certaines grandes galeries d'ailleurs tirent leur épingle du jeu, comme la galerie Pace, avec des mini-séries de piscines de David Hockness, qui est assez futé en ce moment, je pense qu'on pourra en reparler. Mais je pense que les choses sont plus dures pour les galeries au quotidien, continuait Marc Spiegeler. En tout cas, dans ce super marché de l'art, comme le juge Béatrice de Rochebouët dans le Figaro, on peut quand même voir, estime-t-elle, des accrochages d'une plus grande finesse chez les galeries françaises que dans les stands bling-bling, sans effort de curating, où les pièces XXL sont à touche-touche pour en vendre le plus possible, comme chez Gagossian. Et pour cause, dans un marché de l'art qui a triplé en 15 ans, explique encore le Figaro, Art Basel reste vraiment l'épicentre de cette saison de foire artistique. Je les rappelle, entre Dubaï, Paris, la Documenta, Castle, toutes ne sont pas des foires, hein, Venise, la Biennale, la FIAC et les deux déclinaisons de printemps de Art Basel et d'automne à Miami et à Hong Kong, eh bien Art Basel sert de redistributeur. La deuxième particularité de cette foire, c'est qu'elle se veut politique, notamment dans son espace dédié aux œuvres monumentales. J'en parlais, Unlimited, Selon l'AFP, le climat politique de l'automne dernier a joué. Au moment où se faisait la sélection des œuvres de cette section, le directeur de la foire, Marc Spiegeler, explique d'ailleurs, il y a en conséquence non seulement de nombreux projets qui ont une connotation politique en lien avec la situation aujourd'hui, mais aussi certaines œuvres qui apparaissent particulièrement pertinentes, même si elles ont été créées il y a 10, 20 ou 30 ans. Alors, en témoigne justement dans cet espace Unlimited, par exemple, la première apparition très remarquée de Sue Williamson, l'artiste sud-africaine, avec une œuvre sur les migrations au sens large qui donne voix à l'Afrique, selon le Parisien. Bon, c'est peut-être un peu audacieux. En tout cas, on voit aussi des rayons de supermarché qui ressemblent à ceux de Monsieur Bricolage, avec leur néon blanc et la caisse intitulée LEC, ce qui veut dire lèche. Il y a aussi un dirigeable blanc qui tourne en rond de Chris Burden chez Gagossian, en hommage détourné, évidemment, c'est le cas de le dire, au pionnier Santos Dumont, des grandes sculptures en bois pseudo-phalliques ou totémiques, appelées Reality Hacking, et puis aussi cette œuvre très inquiétante, hein, si on parle de politique, America KKKA de Sildo Meireles. Ce sont deux plaques penchées, l'une en tapis sur lequel il faut marcher sans chaussures, l'autre suspendue à des chaînes et remplie de pointes qui n'attend que de se décrocher sur l'usager justement de cette œuvre. Ouch, dit une visiteuse sur le site Vernissage TV qui permet de voir ces œuvres. En tout cas, ce sont des œuvres d'art très politiques, bien sûr, dues à l'arrivée de Donald Trump. C'était déjà le cas pour la Art Basel de Miami l'année dernière, ça a été remarqué. Et ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à côté de cette Art Basel, la Documenta Castle, qui n'est pas une foire, hein, elle, mais exposition très politique, quinquennale, exposition quinquennale très politique également. Elle a été délocalisée à Athènes cette année comme symbole de réconciliation, on pourrait dire germano-grec, avec une forte thématique portant sur les migrations, elle aussi. En somme, elle aussi offre une plongée dans un monde inquiet, c'est ce qu'écrivait Valérie Duponchel dans le Figaro. À côté du clou du spectacle, justement, les pièces de Art Basel font un peu petites, 70 mètres sur 31 sur 10 de haut. C'est le Parthénon des livres, l'installation de l'Argentine Marta Minujín, qu'elle disait elle-même au journal La Nación, être la plus grande, la plus géniale et la plus politique de sa carrière. Ceci donc pour Documenta et Art Basel, à l'inverse de la Biennale de Venise qui a souhaité s'en détacher ostensiblement de cette politique, mais aussi des foires comme la Frise ou la FIAC. Alors, vu à Venise, acheté à Bâle, écrivait le journal des arts. On pourrait dire aussi cette année, vu la proximité, vu à Documenta, acheté à Bâle. En tout cas, pour Adam Shimchik, qui dirige justement cette Documenta, elle se veut une opération d'apprentissage, dit-il, pour sortir les citoyens de l'apathie politique. Ce contexte donc de reprise économique et de politisation de cette foire favorise-t-il la qualité de ces rendez-vous ?
C'est cette question-là. Alors, donc, il arrive au bout de ce petit salon. Harry Bellet, je vais laisser mon stylo entre nous deux parce que vous avez pris des petites notes pendant ce petit salon. Qu'est-ce que vous arrivez à vous relire avec votre écriture de pattes de chat ?
Je me relis à tâtons. On est dans une conjonction de planètes qui n'arrive que tous les 10 ans. La Biennale de Venise, la foire de Bâle, elle est annuelle. La Biennale, comme son nom l'indique. Documenta de Cassel, quinquennal, et le Project Münster, le Sculpture Project de Münster en Allemagne, qui lui est décennal. Alors évidemment, c'est l'occasion. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles autant de collectionneurs viennent de très très loin, d'Asie, des États-Unis.
Là, on peut effectivement ratisser large.
On ratisse large et ils le font. Les trustees des musées que j'ai croisés à Bâle.
Les quoi ?
Les trustees.
Ça veut dire quoi ?
Ce sont des trustees. Ce sont des administrateurs au sens premier du terme. Ce sont surtout des gens qui dépensent beaucoup d'argent pour que leur musée, aux États-Unis notamment, puisse tourner. Vous savez, les musées sont privés, pour l'essentiel, aux États-Unis. Et donc, ces gens dépensent leur argent pour acheter des œuvres qui vont parfois chez eux, souvent dans leur musée, et ils voyagent pour s'informer. Les trustees que j'ai pu croiser, j'en ai vu beaucoup, notamment ceux de Kansas City, à Bâle, étaient assez sidérés par ce qu'ils ont pu voir en Europe, c'est en 10-15 jours, en faisant tout le tour. Ils ont leurs fameux avions. Les avions privés, c'est pour ça. Enfin, voyons. Bon,
c'est un instrument de travail.
Un instrument de travail pour aller de Bâle à Cassel, c'est pas évident.
Non, de Athènes à Cassel, c'est plus...
Oh, ils sont pas allés à Athènes.
Bon, bref. Ils ont été sidérés par quoi ?
Pas exagéré. À part la qualité de ce qui était proposé, par la qualité des collections privées qu'ils ont pu visiter, ça j'ai encore une information, et puis par le fait qu'on pouvait acheter aussi bien à Bâle qu'à Cassel. ou à Venise. Ça, c'est un truc qui est une chose qu'il faut quand même casser une fois pour toutes. On vend à la Biennale de Venise, c'est depuis le début de la Biennale de Venise, il y a plus de 100 ans. On vend à la Foire de Cassel. C'est très simple. Bon, il n'y a pas le prix sur l'œuvre. D'ailleurs, à Bâle non plus. Mais il y a le directeur de la galerie ou son assistant qui est là avec ses cartes de visite. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est pas parce que c'est marqué culturel en gros dessus ou politique en gros dessus qu'on va pas y vendre. Hein. C'est la raison de la création de Art Unlimited à Bâle en 2000. La foire de Bâle avait pris conscience de ce qu'il n'y avait aucune raison de laisser le marché des œuvres monumentales à la Biennale de Venise ou à la Documenta de Cassel. Ils ont créé cette section qui est superbe et gigantesque, 16 000 mètres carrés, c'est plus grand que beaucoup de musées, 70 œuvres monumentales ou difficiles à installer.
Mais parce ça fera que, bien dans le jardin.
Enfin certaines vont peut-être avoir du mal à supporter la pluie. Cela dit, c'est vrai qu'ils adorent les œuvres politiques. Sildo Meireles, par exemple, alors ce sont pas des gouttes, alors, ce sont des munitions, ce sont des balles, 9 mm 7,65 en alternance, et ce qui fait que quand on se retrouve les pieds sur les œufs, ce sont des œufs en bas, en bois. Les pieds nus sur les œufs en bois et avec de quoi flinguer à peu près tous les visiteurs de la foire au-dessus, on est dans une posture, c'est très beau en plus, les couleurs sont magnifiques, on est dans une posture un peu inconfortable tout de même. Mais Sildo Meireles, c'est un artiste très très politique, il était dans Face à l'Histoire au Centre Pompidou en 96 et pas un des moindres. C'est la deuxième œuvre monumentale que je vois de lui à Bâle. La première, c'était une aiguille en or dans une meule de foin. On avait le droit de fouiller dans le foin. Je crois que personne n'a retrouvé l'aiguille en or. Oui. Mais voilà. C'est la foire de Bâle, c'est quand même un truc assez surprenant. Fondée par Ernst Beyeler en 1970.
Rendons à César.
Une foire de marchands et qui a petit à petit, année après année, effectivement, est devenue l'endroit où on doit aller quand on veut rencontrer tout le monde en une semaine. Parce que tout le monde y est.
Bon, votre but dans la vie, Corinne Renaud, c'est pas de forcément rencontrer tout le monde en une semaine, mais plutôt d'aller voir des œuvres. Moi, je suis allé qu'une fois à la foire de Bâle. C'est pas le genre de lieu qui vous attire.
Moi, je préfère prendre une barque et traverser le Rhin.
C'est faisable aussi. Ouais.
Oui, je sais, bien sûr. Ça, je sais.
Elle parle d'expérience.
À France-Suisse 80.
Voilà. Ouais. C'est merveilleux. Non, je déteste ces moments-là. Parce que je n'y vois rien. Voilà. Et c'est vrai que là, chez Bayer, c'était compliqué. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde.
Il y avait qui étaient là, pour la foire de Bâle.
Et ils étaient là pour la foire de Bâle. Oui, mais parce que là, Tillmans fait, fait coup triple pour venir aux 7 mm, 9 mm, je ne sais pas plus.
Les 9 balles. Et 7,65.
Voilà. Donc, moi, je n'ai aucun goût pour ça. Et je n'y vois rien. Alors que les foires, en général, sont toujours faites, ou les biennales sont faites pour anticiper à la question de l'art. C'est que ce sera quoi l'art? Moi, j'ai l'impression qu'on parle beaucoup de politicard, du politico. Je ne suis pas sûre que ce soit une dimension très politique. Enfin, le politique peut se trouver partout dans l'art, donc ça m'insupporte. Mais bon, en même temps, je n'ai pas lu, donc je ne peux pas juger. Et par ailleurs, donc, je souhaite à ceux qui aiment ça le faire. Et moi, je traverserai toujours le Rhin et sinon, j'irai ailleurs.
Xavier Martinet ?
Oui, alors, politique ou pas, j'avais une deuxième question qui concernait, puisque ça m'avait frappé, le statut de l'archive, en fait, dans certaines œuvres d'art qu'on avait pu voir dans cette foire. J'en cite juste deux. Il y a celle de Sue Williamson, qui est sur les grandes migrations, la traite, l'esclavage, dans laquelle elle a quand même fait beaucoup de recherches pour essayer de retrouver les parcours des esclaves individualisés, en fait, chacune des petites bouteilles dans lesquelles sont enfermées toutes les notes. Et l'œuvre de Martin Minujin aussi, dont il s'agit de poser 70 000 livres qui ont été recensés comme interdits au cours de l'histoire. Donc là, ça demande un vaste travail d'archives aussi, avec 19 étudiants de l'université de Kassel. Simplement, je me demandais si c'était quelque chose de très répandu, si c'était particulier à ces deux artistes, et pourquoi cette intervention de l'archive là dans ce travail qui se veut quand même politique.
Bon, l'archive et la politique dans l'art, alors là, on va ouvrir des bibliothèques sur le sujet.
C'est vieux quand même.
Hein. C'est rien de nouveau sous le soleil,
rébellé. Non, c'est au contraire, c'est même c'est quelque chose qu'on a beaucoup, beaucoup pratiqué dans les années 70. Et ne serait-ce que les time capsules de Andy Warhol. Ou le travail de... Encore une fois, reportez-vous à l'excellent catalogue de l'excellente exposition Face à l'Histoire en 1996, d'où c'est vu.
Vous auriez tout. Non, non, ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup fait. Mm. C'est pas toujours très présentable. C'est-à-dire, les deux œuvres que vous citez, ce sont pas des archives, mais elles sont à base d'archives. Mm. Mais j'ai vu aussi exposer des archives, ça existe également.
Ouais, c'est moins facile à vendre, peut-être aussi, pour,
vendre, puis c'est un peu
pour revenir là-dessus. Voilà. Mm. Bon. Bal toujours, bal dans le petit salon et bal encore à suivre dans la dispute. Allez, on découvre les recommandations des critiques présents ce soir et comme prévu, on reste sur le territoire de la Confédération, même dans ces enclaves parisiennes, au Centre culturel suisse avec vous, Corinne Rondeau.
Oui, avec Sylvia Bächli et Eric Attin. Alors, si tu as la différence,
C'est le titre de l'exposition.
C'est le titre de l'exposition. Alors, j'étais très, très, très heureuse de voir cette exposition.
Moi aussi.
Vous l'avez vu,
Mais oui.
Ah, merveilleux. Alors.
Ah oui. C'est le bon mot, merveilleux.
Oui, parce que il y aurait eu Eric Attin seul, ça m'aurait déçu. Et si j'avais vu que les dessins, les peintures de Sylvie Bächli, ça m'aurait déçu aussi. Mais à deux, j'ai trouvé ça d'une très grande force. D'abord parce que j'aime faire, enfin, l'idée de faire avec peu m'intéresse beaucoup. L'idée d'être confronté, en fait, à un dedans qui est aussi un dehors, que les choses se font avec rien. Et en même temps, de nous mettre dans une durée, dans une étrangeté aussi, puisqu'en fait, on arrive à l'étage. Je passe vite parce qu'il y a une vidéo avec un bonhomme de neige. Bon, voilà, c'est aussi un clin d'œil. Il y a beaucoup d'humour, des légèretés aussi. Et c'est un vrai travail. Si tu as la différence, c'est pour ne pas la voir. Pour qu'en fait, cette collaboration in situ, parce qu'ils travaillent vraiment sur l'espace de deux espaces dans lesquels se trouvent leurs travaux au Centre culturel suisse. C'est une manière de rentrer comme dans un jardin avec des tiges, des balais, des tiges dans des pots en plastique, de béton, de ciment, de plâtre, et puis des dessins sur
comme
les murs.
Comme un paysage, une forêt. Hein.
Et oui, c'est comme un jardin, parce qu'il y a... Enfin, moi, j'ai cru qu'il y avait une entrée, finalement, où oui, on peut sortir... On peut se raconter des tas d'histoires, mais ce qui est intéressant, c'est, je dirais, cette manière dont les manipulations se font avec rien. Il y a une vidéo, il y en a deux, notamment d'Ari Attin, parce que lui, il bricole plutôt, il fait plutôt de la vidéo, où en fait, il a un doigt sur l'arête des murs. Ouais, ça nous rappelle qu'une maison est faite qu'avec des angles, et que ce doigt, il faut le regarder pendant très longtemps pour nous dire ce que c'est qu'une maison. C'est de la poussière, c'est des efforts, c'est un haut, c'est un bas, c'est aussi chercher la pauvreté, donc en fait, on est avec d'autres vidéos sur un espace qui est dépeuplé, vraiment. On rentre, et puis on fait le tour de la maison, et puis vous avez quand même une sculpture avec des tiges qui sont dans des bouteilles, qui remettent... Il y a une table à l'envers, qui est vers le plafond, et en fait... Tout est mis à l'envers. Et donc, j'aime beaucoup cette dimension de mettre l'espace sans dessus-dessous, avec quasiment rien. Et le clou du clou, pour moi, c'est quand même cette pelote qu'il est en train de fabriquer. Et en fait, pour faire une pelote avec un fil qu'il va falloir... il faut commencer par un nœud. Et puis, en fait, en l'enroulant, il faut aussi défaire tous ces nœuds. Donc, c'est cette manière de penser avec les mains. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un geste? Et moi, j'ai trouvé que ces vidéos et ce peu de choses dans l'espace qui est parfaitement équilibré, c'est une manière de coller du matériau avec des dessins, des lignes. C'est toujours un travail sur la ligne, finalement. Comment ça se rencontre avec peu de choses. Et moi, ça m'a fait penser vraiment, qu'est-ce que tu fais avec tes mains aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait de son monde? Et l'idée de prendre du temps parce que la vidéo vous pouvez
de
pas vous
pelote,
détacher.
Ouais.
De aucune vidéo, vous ne pouvez vous détacher. Et c'est cette manière de faire monde avec rien. Et je trouve ça très fort, très, très, très humble. Et puis, la dernière salle, à l'extérieur, dans la cour, en fait, ils ont ramassé des choses qui étaient dans la rue. Elle a fait une ligne horizontale sur tous les plans qui sont des armoires, des tables, enfin, on sait pas, en tout cas, c'est accroché au mur. Ça a fait un angle aussi. Et donc, voilà, il a construit ça, il a mis sa ligne noire. Et donc, vous avez une sorte de minimalisme pauvre. Et je trouve que c'est extrêmement apaisant comme exposition. Ça n'a aucune prétention. Et je trouve que ça a une grande force parce que c'est toute une réflexion sur le dedans et le dehors, sur la face et le revers. Et il y a toute cette tuyauterie dont on ne sait pas où elle part et à quoi elle sert. Et
moi, il faut la suivre, la tuyauterie.
Oui, il faut la suivre. Il y a des choses que vous pouvez aussi vous prendre dans la tête à un certain auteur. Donc d'où ça. Enfin, là, c'est toujours. On part, mais on ne sait jamais où on va, et c'est toujours à refaire, et c'est toujours une offrande, comme cette pelote qui est finie dans ses mains, et qu'il met comme ça dans ses deux mains, et c'est pas plus compliqué que ça de faire de l'art, faire sa pelote, avec des nœuds, défaire des nœuds, et faire une boule, voilà.
Et on peut même aussi pousser une toute petite porte entrouverte dans un des murs du Centre culturel suisse pour aller voir ce qu'il y a derrière. Mais c'est ce qu'il nous invite à faire beaucoup, hein, d'aller voir ce qu'il y a derrière, ce qu'on ne regarde pas forcément.
Mmh. Aller, toute l'exposition, c'est ça.
Donc, on vous recommande.
Passer de l'autre côté,
ouais. Sylvia Bechtli, Eric Attan, Situer la différence, c'est le titre d'exposition au Centre culturel suisse qui se poursuit jusqu'au 17 juillet. Alors là, maintenant, territoire suisse à Bâle, retour à Bâle Kunstmuseum. On va parler de la grande exposition Ola Prado dans un instant, mais avant cela, Harry Bellet, il y a aussi Richard Serra dans ce musée.
Alors, c'est pas tout, enfin, c'est dans ce musée, mais dans
oui,
son...
Oui, nouvel espace,
dans
nouveau
l'espace
bâtiment.
Le Gegenwart Kunstmuseum. Non, donc
Comme vous le dites.
C'est comme je le dis. C'est-à-dire, non pas dans le bâtiment principal, ni le nouvel espace, mais
encore un autre,
le long du Rhin, sur Saint-Alban.
Trop longtemps que je suis pas allé à Bâle,
Saint-Alban, très joli.
Ils ont tout changé, quoi.
Oui, tout.
Bon.
Oui,
alors, Richard Serra.
Donc, c'est la partie, c'est le musée qui est consacré à l'art d'après-guerre. Richard Serra, c'est en général 400 tonnes d'acier minimum. Là, c'est tout léger, c'est des films. C'est 16 films qu'il a fait entre 1968 et... date de naissance de Monsieur Tillmans. Entre 1968 et 1979. Et c'est des films qui parlent du geste, justement. Et du geste du sculpteur qu'il est. Alors, pas celui qui consiste à installer 400 tonnes de corten, d'acier corten par terre, mais non. Qu'est-ce que c'est que la main? Ça, c'est absolument task-oriented, comme il dit. C'est la gestuelle. Tous ces films ont travaillé sur ont joué sur le travail de la main. Alors, le fait qu'il ait fait des films dans ces années-là, c'est pas totalement anormal. Tout le monde faisait des films à New York dans ces années-là. Hein. C'était autour de Jonas Mekas, des gens comme ça. Warhol faisait des films. Hein. Bon, ils faisaient tous des films. Mais, alors, il y en a un qu'on connaît assez bien, parce qu'il est généralement projeté dans toutes ses rétrospectives, c'est celui qui, il a sa main droite, essaye d'attraper une boule de plomb qui est lâchée de hors champ caméra et qui tombe. Bon, il la rate. En général, il la rate. Et au bout de quelques minutes, j'ai noté combien de minutes, mais je sais plus où, au bout de quelques minutes, sa main elle est toute noire, parce que le plomb, c'est sale. Mmh. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. C'est 3 minutes. Ça y est, j'ai retrouvé. Il n'y a pas que ça. Tout est basé sur les mains. On voit les mains essayer de rassembler au centre de l'image des plombs plus virulents. On voit les mains. Bon, on voit que les mains. Bon. Et moi, j'ai pas pu m'empêcher de penser à Rodin. Je sais que ça peut faire hurler, mais c'est exactement une manière de rappeler, quand on est sculpteur, que la main est l'outil principal du sculpteur. Et on a une sculpture de Rodin, c'est une main qui sculpte Adam et Ève. Ça s'appelle La main de Dieu, ou encore La création, c'est de 1916. C'est exactement la main de Richard Serra en train d'essayer d'attraper son bout de plomb, sauf que bon, bah là, en l'occurrence, c'est en marbre. Voilà, il y a encore deux films qui n'ont rien à voir avec la main, mais qui sont visionnaires. Il y en a un qui s'appelle Television Delivers People, c'est de 73. En fait, la phrase complète, c'est Television Delivers People to an Advertiser. La première phrase pourrait laisser penser que la télévision délivre le peuple, mais en fait, non, ça livre le peuple à un publicitaire. C'est en 73, c'est-à-dire grosso modo 30 ans avant que Patrick Lelay ait rappelé que sa télévision, c'était d'abord pour donner du temps de cerveau disponible. La deuxième, c'est 74, c'est le dilemme du prisonnier. C'est deux suspects qui sont interrogés. S'il y en a un qui trahit l'autre, celui qui est trahi va se prendre un max. Et ça, c'est un truc sociologique assez connu, mais il le fait avec un critique d'art et un marchand de tableaux, Léo Castelli en l'occurrence. Je vous dirai pas qui trahit l'autre.
On verra ça. Si on va, notamment, au Kunstmuseum de Bâle, d'ici le 15 octobre, n'essayez pas de m'embrouiller, pour aller voir cette exposition de Richard Serra. Vous voulez dire un mot, quand même,
Rondeau? La Séno est très belle, j'ai pas eu le temps de voir les films, mais il y en a trois de ce que vous venez de citer qui sont aussi au Carré d'Art pour ceux qui ne pourraient pas aller jusqu'à Bâle.
Carré d'Art à Nîmes.
À Nîmes, bien sûr.
Ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de
bien
Nîmes.
Sûr.
voilà, pour les informations pratiques.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Allez, suite de cette dispute art plastique 100% helvète, en nous rendant cette fois au Kunstmuseum de Bâle. Et là, vous n'allez pas m'embrouiller, c'est le musée normal, hein, pour un retour de politesse. À l'été 2015, le Kunstmuseum de Bâle avait prêté 10 œuvres de Pablo Picasso au Musée National du Prado à Madrid. Cette année, c'est autour du Prado de confier au musée bâlois 26 chefs-d'œuvre de la fin du 15e siècle jusqu'à la fin du 18e. Le musée de Bâle qui les met en conversation avec une trentaine d'œuvres de sa collection, c'est Baudelaire Brinkmann, qui est le commissaire de cette exposition. Voici donc, allez, à nouveau avec vous, Harry Bellé, puisque vous êtes près de ce Kunstmuseum, quel que soit son bâtiment. Hola Prado, j'ai pas un souvenir fameux de l'exposition Picasso au Prado, c'était peut-être pas les...
Alors celle-ci, c'est pas exceptionnel. Hola Prado, mais il y a un très joli texte dans le catalogue qui s'appelle Hola Prado, Grüezi Basel, c'est bonjour, salut Bâle.
D'accord.
En bâlois.
Traduisez tout, hein, parce que sinon Basel. Je comprends rien.
Grüezi. C'est rigolo parce que c'est deux musées totalement différents.
Ah oui.
Mais vraiment totalement différents, y compris d'abord par leur âge. Le musée de Bâle, c'est un des plus vieux du monde. Il a été créé au 17e. Le Prado, c'est un peu plus récent, c'est le 19e. Si on vient sur l'origine de leur collection, on arrive à peu près au même moment. On est au 16e siècle. Chez les Bâlois, c'est Bonifacius Amerbach, un juriste, un copain d'Erasme. Qui crée ça.
On va mettre du temps à arriver à l'expo.
Non, ça va être très long. Mais ça vaut la peine. Hein. Le désir s'accroît quand les faits se reculent. Et pour les Espagnols, c'est Charles Quint. On est à peu près au même moment. Mais dans un cas, c'est des bourgeois, mais des vrais bourgeois. Ils ont le sentiment de l'être et ils en sont très contents. Dans l'autre, c'est les collections royales. On n'a pas du tout le même registre dès le début. Et puis, Bâle, c'est protestant à partir de 1529. L'Espagne, ça ne l'est toujours pas. Voilà. Et donc, on est dans deux registres totalement différents. Et ils ont réussi. Bodo Brinkmann, qui était un garçon remarquable, il avait fait une exposition de Konrad Witz qui reste extraordinaire. Bodo Brinkmann a réussi à mettre côte à côte des tableaux qui sont d'origine différente, qui sont évidemment d'artistes différents. Et ça donne des... Au début, ça m'a énervé. Quand j'ai vu le Christ mort de Hans Holbein à côté d'un petit mouton de Zurbarán, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Et en fait, c'est très touchant. C'est très touchant parce que le Zurbarán, le petit mouton, c'est un Agnus Dei. Le Christ mort que Dostoïevski disait qu'il va nous faire perdre la foi, c'est un des tableaux les plus extraordinaires qui soient. Et il a réussi à les rassembler, à les rendre cohérents. Il y a d'autres tableaux comme ça, je la fais courte, hein.
Je
le sens impatient.
D'ailleurs, je voulais pas l'historique du Prado et du Kunstmuseum de Bâle.
Ça vaut le coup parce qu'ils ont tous les deux failli disparaître.
Ah oui. Alors, dossier disparition.
Quand Charles, je sais plus combien, je crois que c'est Charles III, a voulu
le. Soyez précis, c'est trois ou c'est quatre.
Ça doit être trois. Roi d'Espagne a voulu détruire tous les tableaux cochons qu'il avait hérité de ses ancêtres. Heureusement que de bonnes âmes les ont planqués en attendant qu'ils meurent. Et puis quand Bâle-Ville s'est battu contre Bâle-Campagne, une guerre en 1833, si ma mémoire est bonne, ils ont vendu tout ce que c'est Bâle-Campagne qui a gagné. Et ils voulaient récupérer le pognon, donc ils ont vendu tout ce qu'il y avait, notamment la rose d'or de la cathédrale de Bâle.
qui est désormais au musée de Cluny. Mais ils n'ont pas vendu les tableaux, donc ils sont toujours au Kunstmuseum de Bâle, le vrai. Voilà. Mais il y a les comparaisons peuvent être assez chouettes. Hein. Il y a deux Saint-Jérôme, un italien et un des écoles du Nord. Ça permet aussi de voir comment la Renaissance se fait différemment d'un côté ou de l'autre. Les Holbein, ça c'est Bâle, c'est fantastique. Mais quand on met Holbein à côté du Titien, ils sont exactement contemporains. Les bons hommes, pas les tableaux. Les tableaux ont 25 ans de distance. Mais ça permet aussi de se dire, ben voilà, comment on embrasse la religion chrétienne et comment on la peint en même temps, nord au sud.
Dans des environnements très différents. Je reviendrai quand même sur votre agacement du début et voir pourquoi il a passé. Mais Corinne Rondeau, vous, quel type de sensation a provoqué en vous cette exposition et cette mise en regard des chefs-d'œuvre du Prado et du Kunstmuseum Basel?
Bourgeoise. Bourgeoise, parce que je pense que le choix est simple, c'est-à-dire c'est un dialogue entre des œuvres qui sont de grandes œuvres. Il y a de grands peintres. En l'occurrence, Harry faisait référence à de Saint-Jérôme, de Lotto et de Hans Memling. Donc ensuite vous passez à... Alors si vous ne connaissez pas le maître de Roussillon et le maître de la légende de Sainte-Catherine, bon, vous avez du gothique international et puis un gothique beaucoup plus... quasiment de la Renaissance, début de la Renaissance. Puis après, vous passez justement à Lotto et Memling. Donc, vous avez quatre tableaux qui vous mettent deux gifles. Et là, je me dis, bon, ben, si c'est pour faire, c'est les plus beaux d'œuvres. Voilà. Et puis ensuite, vous avez des thématiques par salle. Alors, effectivement, vous avez la crucifixion, la flagellation, la représentation de l'homme. Et puis ensuite, vous avez le rapport entre qu'est-ce que c'est représenter la Agnus Dei, donc le symbole du Christ après la contre-réforme, et puis le Christ mort. Donc, c'est le corps, mais je veux dire, ce sont des chefs-d'œuvre, parce que le surbarin, il est bien gentil, arrive de dire c'est un petit mouton. Je veux dire, bon, quand vous êtes face à un surbarin, vous dites pas c'est un petit mouton. Vous prenez quand même une douille de 9 mm dans l'œil, cher Harry.
65. C'est un petit mouton.
Voilà. Et donc, moi, j'étais agacée, très profondément agacée, parce qu'en fait, vous avez donc du gothique jusqu'au 18e, et ensuite, vous avez une série de dialogues, qui sont des trilogues, d'ailleurs, parfois, sur des œuvres. Non, moi, je pense que la porte d'entrée de l'art n'est pas faite avec des chefs-d'œuvre, elle ne se fait pas avec des chefs-d'œuvre. Quand on se perd dans un musée pour découvrir des tableaux, on tombe à la fois sur des chefs-d'œuvre et à la fois sur des tableaux qui sont à côté des clous. Et donc là, il y a vraiment une sélection de très, très belles œuvres, je trouve. Et moi, ce qui me gêne vraiment dans cette exposition, c'est le rapport un petit peu, plat de l'histoire de l'art. Alors, j'entends bien que la question de l'histoire de l'art, c'est aussi de reconnaître des formes, puisque la force qu'on connaît tous pédagogiquement, c'est de chercher la comparaison. Il y a une volonté de faire du comparatisme, et parce que la comparaison est accessible à n'importe quel œil. C'est clair. Sauf que vous avez quand même un commissaire derrière, un conservateur qui est en train de vous organiser des thématiques sur la religion catholique, sur ensuite l'allégorie. Qu'est-ce que c'est que l'allégorie? Ensuite, qu'est-ce que c'est que le portrait?
Mais vous pensez que ça produit pas?
Non, mais je dis pas que le parcours de belles œuvres n'est pas un vrai moment de plaisir face à des œuvres. Moi, je suis un peu déçue. Voilà, c'est tout. Même si j'ai pu prendre plaisir avec des tableaux qui représentent sur les côtés les vanités, par exemple, qui avaient des choses merveilleuses. Et puis, j'ai adoré la salle. Parce que vous savez que Holbein le Jeune, le même qui fait le Christ mort, a fait une série de danse macabre, le livre de la mort. Voilà, ça commence après que Adam et Ève aient jeté Adam et Ève du paradis. La mort arrive et puis, généralement, c'est le médecin, le marchand, le noble, la reine, la duchesse, tout le monde va la mort est dans chaque vignette, y compris le marin et parfois le mendiant, le vieillard, tout ça. Donc c'est des petites scénettes et c'est les capriccios, de Goya, ces séries les plus de gravures les plus connues
sur les désastres de la guerre.
Les désastres de la guerre en face de ce livre de la mort, c'est assez formidable. Par exemple, il c'est pas dans le catalogue, par exemple, c'est dommage de pas avoir fait ce choix, parce qu'en fait, vous avez trois Titiens et vous avez beaucoup d'Holbein. Et c'est quand même les trois figures les plus fortes entre Madrid et Bâle. Donc il y a de très belles œuvres, mais par ailleurs, je pense que j'ai eu la sensation qu'il revenait sur les principes fondamentaux de Wolfflin, vous savez, avec des formes ouvertes, des formes fermées, cette manière d'avoir un accès plus libre à l'art. C'est pas grave. Mais par ailleurs, j'ai trouvé ça, J'ai trouvé ça pauvre. Voilà, j'ai trouvé ça pauvre et en même temps pédagogique. Enfin, je sais pas. Moi, je suis très mitigée.
Ça fonctionne pas.
Mais j'ai pris plaisir à voir des œuvres, évidemment,
de revoir des chefs d'œuvre.
Des œuvres du Titien.
Alors, Harry Bellet s'est habilement glissé loin de cette table pour aller chercher le catalogue. Qu'est-ce que vous alliez chercher, Harry, dans ce catalogue?
Eh ben, j'allais chercher deux artistes qui sont des génies méconnus parce que je ne connaissais pas. Je connaissais pas Collante, Francisco Calantes. Je connaissais pas Valkenburg, Friedrich von Valkenburg. Deux adorations des bergers, deux tableaux absolument inouïs. Je les montre à la radio.
Ah bah oui, voilà. C'est vrai que nos auditrices et auditeurs en sont contents.
Il n'y a pas que des...
Ils sont très opposés. Alors effectivement, la comparaison, là, elle est criante.
Faites le compte, et puis allez me dire.
Certes, nous sommes d'accord que Laïs de Corinthe, cette grande coquine de l'Antiquité grecque, vue par Holbein, et Salomé, vue par je ne sais plus qui, je pense que c'est Titien, oui. L'avantage de encore une fois, c'est l'histoire de l'art, c'est pas mal parce que quand on sait que Laïs de Corinthe, telle que la peint Holbein, c'est une bourgeoise de Bâle qui s'appelait Magdalena von Offenburg et qui était assez mal vue par ses concitoyens pour sa vie libertine, et que Salomé, c'est Salomé. On a deux visions différentes de la manière dont on fait de la peinture au 16e siècle.
Non, mais c'est dans la salle des portraits, Harry, ça ne veut rien dire.
Comment ça veut rien dire?
Non, mais franchement, j'ai trouvé que c'était... En plus, ils nous font un cartel pour nous dire les portraits, alors les nordiques, la figure principale du sud, des peintres, c'est les saints et les saintes. Ah, mon Dieu! C'est une histoire de l'art des nuls, je suis désolée.
Mais mon Dieu, mais c'est important.
Mais j'adore l'histoire de l'art.
Ah bon, j'étais inquiet. Corinne, je m'inquiétais.
Mais pas du tout.
Mais c'est vraiment important, l'histoire de l'art.
Mais bien sûr. Mais je pense que c'est...
Ou alors, c'est peut-être pour ça que je comprends pas.
Je pense que le rapport à l'art, ça doit être une porte à ouvrir et pas nécessairement de faire appel, comme le font, grande collection, c'est comme mettre Cézanne, Picasso. Je veux dire, à un moment donné, on voudrait qu'il y ait un peu plus de tenue. C'est-à-dire que je suis désolée, on fait pas l'histoire de la représentation du corps du Christ quand vous avez mis un mouton, quelques Sainte Véronique et le Christ mort qui est le fleuron du musée de Kunstball.
Alors, on n'a peut-être pas le temps d'en parler, mais
on n'a pas le temps.
Vous avez dû être très heureuse de voir l'exposition, cher ami, des dessins de Cézanne, parce que j'en ai rarement vu d'aussi mauvais.
Bon, on ferait trois petits points parce qu'on en va en parler la semaine prochaine, me semble-t-il, cette exposition. Mais on s'arrête là pour ce soir. Ah oui, celle de Bâle. Bon, on se sera évoqué ou pas. Paola Prado, je suis très en retard. Donc, deux collections en dialogue, c'est le titre de l'exposition au Kunstmuseum de Bâle jusqu'au 20 août. On conclut l'émission avec le jeu de la dispute. Justine Dibling nous a rejoint pour nous rappeler d'abord la question d'hier au soir et nous donner sa réponse. Justine.
L'œuvre de Paul Cézanne est devenue un sujet de réflexion pour de nombreux philosophes du XXe siècle. Qui a dit que Cézanne peignait les femmes comme les pommes, ou encore que le regard que portait le peintre sur les pommes formait l'essence de son regard sur l'humanité? Et la réponse était Gilles Deleuze.
On fait gagner ce soir des coffrets DVD Blu-ray des deux films de Lino Broca, Insiang et Mani. C'est distribué par Carlotta. Quelle est la question, Justine?
Le film Mani de Lino Broca, qui reprend le mythe d'Orphée Eurydice dans la capitale philippine, est adapté d'un roman. Lequel?
Très bonne question. Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr, à la page de la dispute. Page sur laquelle on peut réécouter l'émission, page via laquelle on peut s'abonner au podcast de l'émission, page via laquelle on peut aussi nous écrire. Nous vous donnons rendez-vous demain à 21h pour une dispute consacrée à la musique en compagnie d'Hugo Cassavetti et Christophe Comte, à notre affiche Ascension de Babix, Crack Up de Fleet Foxes et Fake Sugar de Beth Ditto. Bonne fin de soirée à l'écoute de France Culture. À 22h15, les discussions du soir et dans quelques instants, le journal de la rédaction.